Merci beaucoup pour votre invitation. Merci en particulier, effectivement, à Hugues Poletier. Pas mal de hasards ont permis cette rencontre et je suis très heureux que la somme de ces hasards, au moins 6, se soit conjuguée positivement. Pour un spinoziste, ça ressemble trop à de l'harmonie préétablie. Et donc, je me sens un peu coupable quand même. Donc, du coup le portrait du maître par Picasso, c'est pas ce que je voulais vous montrer. C'est ce qui me sert de page de bureau. Et je n'arrive absolument pas. Je ne sais pas pourquoi la communication, il ne se passe rien. Je parlerai de ce tableau. Merci de l'assistance, pour l'assistance technique. Effectivement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà eu des problèmes avec les prises de courant ce matin. où se loge l'identité nationale. Donc, merci pour cette invitation, d'autant que je ne suis pas un spécialiste de la nation. Je travaille sur la notion, je reste vague sur le terme, sur la notion de peuple, démocratie, le mot de populisme, plus que la réalité des courants populistes, en particulier des premiers populismes. Et je mets tous ces termes entre guillemets, parce que ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir ce qu'est le peuple. Ce qui m'importe, c'est de savoir ce que les mots disent. Ce qui m'importe, donc, c'est la rhétorique par laquelle ils prennent un sens. Or, entre peuple et nation, il y a évidemment des recoupements, plus que des recoupements, quelquefois même des synonymies. Et je dirais que, de mon point de vue, l'un des points communs, c'est qu'on a affaire à des signifiants ambigus et à des signifiants flottants. Signifiant ambigu, c'est-à-dire pourvu de plusieurs significations, ce qui en soi est à peu près le cas de presque tous les mots. Mais, et c'est ce qui me paraît important, pourvu de plusieurs significations de manière telle que le sentiment, qu'on a le sentiment que leur sens est clair. Et si on a le sentiment que leur sens est clair, c'est parce que ce sens procède de glissements d'une signification à une autre dans les discours qui les mettent en œuvre, singulièrement dans les discours des hommes politiques. L'ambiguïté du mot de peuple n'est pas un défaut de la langue. Mirabeau le signalait dans un texte célèbre en juin 89. L'ambiguïté du mot de peuple est sa nature même. On ne peut pas la lever. Le mot de peuple fonctionne dans les discours en tant qu'il est ambigu. Et chercher à trouver un sens objectif, simple et clair, c'est tuer le signifiant. Quand un homme politique évoque le peuple, on remarque tout de suite que deux ou trois sens se conjuguent. L'ensemble des citoyens susceptibles d'être consultés dans une décision politique, le populus des latins, la fraction inférieure dominée, celle qui se lève tôt ou qui travaille, la plebs des latins, et enfin la communauté historique, voire transhistorique, qui habite un territoire, l'ethnos ou le genos des Grecs, pour une part la gens des Latins. Pour le dire en des termes d'aujourd'hui, dans ce troisième sens, le peuple est l'ensemble de tous ceux qui sont en situation de dire quelque chose comme « ici on est chez nous, on est vraiment chez nous » ou à l'inverse « on n'est plus chez nous, on veut rester chez nous ». C'est le « chez nous » évidemment qui m'intéresse, l'imaginaire du « chez nous » qui m'intéresse ici. On pourrait presque relever les mêmes ambiguïtés pour « nation » qui signe aussi quelque chose comme un « chez-soi » sur lequel le corps politique s'adosse. Mais « peuple » est aussi un signifiant flottant, et pas seulement un signifiant ambigu. Signifiant flottant, c'est-à-dire qui est objet d'un conflit quant à son appropriation. Aux deux sens du mot appropriation. Quel est son sens propre? C'est-à-dire, que faut-il entendre par peuple? Est-ce l'ethnos qui fonde le populus ou l'inverse? Le vrai peuple n'est-il que le peuple d'en bas, les classes populaires, ou enveloppe-t-il tout le monde? D'où appropriation en un deuxième sens, à qui appartient le nom de peuple? Qui est en droit ou en mesure de dire « c'est nous, le peuple » Et donc, corollairement, qui est en droit de dire « eux n'en sont pas » ou « vous n'en êtes pas » Cette deuxième appropriation produit quelque chose comme le tracé d'une frontière, voire le tracé de plusieurs frontières, frontières extérieures, frontières intérieures ou frontières intérieures, qui fait que on voit que d'une certaine façon, et de ce point de vue je marquerai mon accord avec Jacques Rancière, on peut soutenir que le peuple n'existe pas, ou que le mot de peuple, la notion de peuple, n'est pas un concept qui renverrait à une réalité objective, empiriquement constatable, et dont on pourrait faire une description. Il existe une multitude d'hommes qui peuvent être configurés en peuple de différentes manières. Comme le dit Rancière, il y a toujours un peuple contre un autre. Et ce qui m'intéresse, ce sont les modes de ces configurations, les manières avec lesquelles une masse d'hommes peut être configurée en peuple. Ces configurations jouent toujours dans un rapport d'altérité. C'est dans le rapport à l'autre, à un autre, que se définit la manière d'être peuple d'un peuple. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs manières d'être peuple, un peuple contre un autre. L'usage contemporain, par exemple, du mot populisme, et j'insiste sur l'usage contemporain du mot populisme, ce qu'un collègue appelle joliment la populologie. L'usage contemporain du mot populisme le dit d'une certaine façon. Dans populisme, terme vague, jamais défini, à usage péjoratif, on désigne un mode de rhétorique politique qui fait fond sur le désir de repli sur soi, d'entre-soi de la communauté nationale, donc le refus, voire la haine de l'étranger, ou plus exactement de certains étrangers, immigrés ou réfugiés d'Afrique, musulmans pour la plupart. Ce qui présuppose qu'il existe, qu'on pense qu'il y a un peuple ignorant des réalités du monde, xénophobe, voire raciste, à quoi on oppose un vrai peuple éduqué, raisonnable, adhérent aux valeurs universelles de la République. On voit bien là tout de suite qu'on est en présence de deux manières d'être peuple. L'une qui est le vrai peuple, l'autre qui n'en serait pas, sans être étrangère pour autant. Comme la foule marque quelque chose comme une dissolution du peuple, une manière d'être dans le peuple qui n'est pas du peuple. J'en ai conclu, et c'est un peu le sens de ce tableau, avec ici une faute de frappe, c'est pas moi qui ai tapé, j'ai donné un manuscrit, et j'écris tellement mal que ça a donné un mot hérétopie, je sais pas ce que ça veut dire, c'est hérésie. Où j'essaye de synthétiser ce que j'appelle le système, la structure de variation du mot peuple. Trois sens ou quatre sens à peuple, au centre, le peuple comme corps politique, le souverain politique, la plèbe, l'ethnos ou la nation, et on peut rajouter un quatrième sens, le laos des Grecs. Chacun, pour chacun de ces sens, un autre du peuple, le peuple étranger, l'étranger, pour la plèbe, ce que Machiavel appelle les grands, pour l'ethnos, le barbare ou l'autre, le barbare au sens grec du terme, l'autre culture, pour le Laos, le clair, tout simplement. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en réalité, derrière cette opposition frontale, claire, entre ce qu'est un peuple et ce qu'il n'est pas, se cache une autre opposition, la plupart du temps déniée, que j'appelle d'inclusion exclusive, où une part des hommes est inclus à l'intérieur du peuple, au titre d'en être exclu. Inclus en tant qu'on doit faire effort, en tant que le peuple, pour être peuple, le peuple pour être vraiment peuple, le peuple pour être purement peuple, doit s'efforcer de l'extraire de lui-même. Comme du peuple souverain, il faut se démarquer de cette manière d'être qu'est la foule. Comme de la plèbe, il faut ne pas être ce que Hegel appelait peuple, il faut ne pas être populace. Comme de l'ethnos ou du civilisé, il faut ne pas être sauvage. Et je m'amuse de ce point de vue en jouant sur les étymologies à faire une différence entre le barbare et le sauvage, celui qui est de la forêt et celui qui est de la cité. Et donc, comme à l'opposé du Laos, il faut ne pas être hérétique. Voilà la faute de transcription. Derrière ça, mais je ne veux pas développer, j'essaye de pointer des opérateurs de glissement d'un sens vers un autre, qui fait que dans un discours politique, on tâche toujours de jouer d'un terme contre l'autre en organisant une confusion de sens. Mon hypothèse, c'est que c'est ce mécanisme d'inclusion exclusive qui détermine ce mode de, entre guillemets, populisme nationaliste contemporain qui se manifeste sous cette forme triviale que je pointais tout à l'heure. On n'est plus chez nous, on veut être vraiment chez nous. J'en viens à Michelet. Je fais un peu ce préalable pour expliquer l'instrument dont je me sers pour lire Michelet. Et je me cantonnerai sur un tout petit morceau du peuple de Michelet. Dans quelle mesure est-ce que Michelet peut nous aider à démêler ces fils ? Dans quelle mesure est-ce qu'il peut nous aider à comprendre comment ces fils s'en mêlent les uns dans les autres ? Je vais essayer de le montrer, mais évidemment Michelet n'est sûrement pas le seul auteur à pouvoir le faire. Que dit l'auteur du peuple ? Texte paru en 1848. On est donc dans une période historique similaire à celle dont nous parlions ce matin. Et premièrement, le peuple n'est pas ce que la doxa ou la mode dit qu'il est. Il n'est pas composé de malfrats qui ne pensent qu'à crocheter les serrures ou détrousser les bourgeois en goguette la nuit dans les rues obscures de Paris, il n'est pas le peuple de Gensu. C'est clairement l'adversaire qui est visé par Michelet. Et il le dit très expressément, sa figure emblématique n'est pas le pittoresque gamin de Paris. Il n'y a rien de plus opposé au peuple réel que le gamin de Paris. Le gamin de Paris, c'est du pittoresque, et c'est l'anti-peuple, d'une certaine façon. Il n'est pas non plus un communiste. Et là aussi, c'est très clair chez Michelet, ce n'est pas un communiste partageux ou niveleur, en tout cas pas le peuple français qui est trop attaché à la propriété privée. Le peuple n'est donc ni gamin de Paris, ni communiste. Ce qui est déjà de la part de Michelet, si on prend le corollaire, si on retourne la proposition, le gamin de Paris comme le communiste ne sont pas du peuple. on a bien affaire là à quelque chose comme des figures d'inclusion exclusive que Michelet trace tout de suite dès les premiers chapitres du peuple. Alors, qui est du peuple ? Il ne se pose jamais la question « qu'est-ce que le peuple ?» Il y a du peuple, et c'est de ce constat qu'on partira, et la question d'essence, la question de type platonicien, qu'est-ce que le peuple, est une question qui est tout de suite écartée, qui n'est jamais posée. Par contre, qui est du peuple, qui fait partie du peuple, oui, c'est une question permanente dans ce qui va ressembler à une espèce de sociologie, mais je crois que ça n'en est pas une. La réponse est on ne peut plus ambigu. D'une certaine façon, tout le monde, le bourgeois aussi est du peuple. D'une certaine façon, tout le monde est du peuple. Mais d'une autre manière, aujourd'hui, 1846, presque personne n'est du peuple. Aujourd'hui, en 1846, il y a bien une population socialement divisée, mais on peut dire que le peuple n'existe pas, en tout cas que le peuple n'existe pas dans le peuple. On verra qu'il existe dans la voie du génie ou dans la voie du barbare, mais il n'existe pas dans ce que habituellement on appelle le peuple. S'il n'existe pas, c'est qu'il y a des causes à son absentement ou des causes à son délitement, des causes à se tendre vers zéro, qui est l'état de la France de 1846. L'examen rapide des causes permettrait de comprendre en creux, donc, ce qu'est véritablement le peuple. Et dans toute la première partie de ce livre étonnant, qui, plus j'y réfléchis, plus me semble ressembler au discours à la nation allemande des Français. J'ai l'hypothèse de mon travail, je crois que je vais me mettre à faire des rapprochements. Je ne les ai pas faits, donc je ne répondrai pas à des questions sur ça. Mais c'est une hypothèse qui me travaille de plus en plus. Et il y a une remarque de Lucien Febvre en 1945 sur le rôle que le peuple a joué dans la résistance qui donne à penser qu'effectivement, le peuple de Michelet joue mutatis mutandis, un rôle similaire au discours de Fichte à la nation allemande. Il se livre donc dans la première partie du peuple à ce qui ressemble à un tableau sociologique de la population, les paysans, etc., et qui est en réalité, à mon sens, une réflexion sur la généalogie du délitement du peuple. Très symptomatiquement, la première partie du peuple s'intitule « Servage ou servitude du peuple ». Et chaque chapitre est consacré à une servitude d'une couche sociale pour des raisons de temps. Je me concentrerai sur le premier, c'est-à-dire sur la paysannerie. Le peuple, c'est avant tout, parce que c'est là le fond du peuple, la fondation au sens architectural, le fondement, non pas au sens métaphysique ou juridique, mais le fondement au sens architectural, ce qui est à la base, le fond du peuple, c'est le paysan. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui fait la terre. Le paysan fait la terre en s'appropriant, là encore, aux deux sens du mot, la terre. Il approprie la terre aux besoins de ceux qui l'habitent. Et il est naturellement déterminé à désirer la terre qu'il possède. Tel va être le fond à la fois de son enracinement sur le territoire et donc de la fabrication du territoire et le ressort de son aliénation, le ressort de sa servitude. Cet enracinement sur le territoire, juste une petite référence pour faire entendre, mais j'en donnerai une ou deux autres. Oui, l'homme fait la terre, on peut le dire même des pays moins pauvres, ne l'oublions jamais, si nous voulons comprendre comment il l'aime et de quelle passion. Songeons que des siècles durant, les générations ont mis là la sueur des vivants, les os des morts, leur épargne, leur nourriture. Cette terre où l'homme a si longtemps déposé le meilleur de l'homme, son suc et sa substance, son effort, sa vertu, il sent bien que c'est une terre humaine et il l'aime comme une personne. Michelet célèbre les épousailles du paysan et de sa terre. Ça me fait penser, on parlait de Ford, évidemment, à cette scène des raisins de la colère où le fermier expulsé prend la terre et on voit la puissance abstraite, et c'est ça qui va se passer chez Michelet, la puissance abstraite de l'argent expulsée de la terre, et le paysan non propriétaire dire « cette terre est à moi, cette terre est moi, parce que j'y ai travaillé, j'y ai mis toute ma sueur, et les parents sont enterrés enfin, ». C'est cette liaison des vivants et des morts. C'est cet enracinement qui fait du paysan le bon soldat. Le paysan, ayant fait la terre, défend les frontières. Et le paysan, ayant fait la terre, on le voit dans ce paradigme qu'est le soldat de l'an 2, qui va défendre la nation en danger. Ce sont les paysans, dit Michelet, qui se sont portés aux frontières pour défendre la nation. Ce paysan, c'est pratiquement un principe de droit politique. Un esprit fixé sur un point ira s'approfondissant, dit Michelet. Un esprit flottant dans l'espace, cosmopolite, se disperse et s'évanouit. Voyez l'homme qui va donnant son amour à toutes, Don Juan. Il passe sans avoir su l'amour. Qu'il aime une fois et longtemps, il trouve en une passion l'infini de la nature et tout le progrès du monde. La patrie, la cité, loin d'être opposées à la nature, sont pour cette âme du peuple qui y réside l'unique et tout-puissant moyen de réaliser sa nature. L'infini, l'universel, ne peut se réaliser, ne peut être que dans le particulier. Et c'est ce jeu d'un particulier universel, d'un universel incarné, qui fonde toute la réflexion de Michelet, articulant ici peuple et nation. La nation, c'est l'universel incarné. Il n'y a pas d'autre mode d'être de l'universel que celui de son incarnation dans la nation. Le paragraphe que j'ai commencé à lire se poursuit avec l'exemple d'Athènes. Or, ce désir de possession qui le fait soldat à l'occasion est en même temps la contradiction qui va nier notre peuple paysan. De par la logique marchande dominante, celle de la bourgeoisie Louis-Philippe-Arde, il risque la ruine et se trouve, à l'inverse, soumis à l'usurier qui est un homme de la ville, urbain, qui ignore l'amour de la terre, qui prend ça pour de la plouquerie, et qui soumet tout au calcul d'intérêt monétaire, qui noie tout dans les eaux glacées du calcul égoïste, si on veut une autre référence quasi contemporaine, où, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser à Balzac, décrivant le comportement du bourgeois qui ne pense qu'à son porte-monnaie. Ainsi, l'usure cause-t-elle le délitement du peuple parce que le paysan soumis à l'usurier devient misanthrope et le lien social qui permettait de constituer véritablement le peuple de Valmy, ce lien social se défait. Et le paysan va émigrer aux colonies ou à la ville où il va se faire ouvrier. Mais je veux m'attarder un petit peu sur la description que Michelet donne de ce ressort du délitement, où j'essaye d'en tirer peut-être plus que le texte n'en dit. Ce peuple est noble. Bon, ça, c'est une rhétorique constante dans le peuple. Le grand peuple d'en bas, le petit peuple d'en haut. Dans l'histoire de France, ça vient sans arrêt. Les âmes d'or sont les âmes de paysans. Donc, il inverse la hiérarchie platonicienne. C'est les paysans qui ont une âme d'or. Ce peuple est noble après ces grandes choses, c'est-à-dire après la Révolution. L'Europe est restée roturière. Mais cette noblesse, il faut que nous la défendions sérieusement, elle est en péril. Le paysan devenant le serf de l'usurier ne serait pas misérable seulement, il baisserait de cœur. Un triste débiteur, inquiet, tremblant, qui a peur de rencontrer son créancier et qui se cache, croyez-vous que cet homme-là garde beaucoup de courage ? Que serait-ce d'une race élevée ainsi, sous la terreur des Juifs, et dont les émotions seraient celles de la contrainte, de la saisie, de l'expropriation ? Ah, bien sûr, tout le monde a eu, comme moi, l'oreille écorchée au passage. Et c'est là-dessus que je veux venir. Si on prend dans ce paragraphe, que j'ai lu un peu lentement pour le faire entendre, si on prend dans ce paragraphe l'essence du mot « peuple ». Qu'est-ce que « peuple » dans ce texte ? C'est d'abord le peuple du peuple, les paysans. La couche inférieure, qui est en réalité, au fond, qui est en réalité la vraie noblesse, celle des fondations de la société, celle d'où part le sang qui nourrit la nation. Peuple social, donc peuple au sens social, une fraction de la population. Mais c'est aussi ce peuple qui a fait de grandes choses, le peuple politique. La nation au sens fin 18e, au sens révolution de 89, la nation qui se lève pour se défendre contre l'ennemi, celle qui est prête à verser son sang pour la défense du territoire, dont l'armée de mobilisation populaire est l'expression la plus haute, donc le peuple patriote, qui est un mode du nationalisme. Mais c'est aussi, bien sûr, on l'a entendu, un génos, une race. Certes, le mot « race » est pris au sens 18e, au sens d'une antérieure à la biologisation des races, au sens où Foucault a parlé de la guerre des races. Et il est clair dans l'esprit de Michelet, polémiquant avec son maître Carrel, il est clair que la race française résulte d'un mélange de vagues d'immigration. Ça ne fait absolument aucun doute. Il n'y a pas de race biologique chez Michelet qui expliquerait l'unité nationale. Non, l'unité nationale, elle a été produite par mélange de vagues migratoires qui se sont unifiées sous la pression des guerres avec les voisins. Je cite, « La lutte contre l'Angleterre a rendu à la France un immense service. Elle a confirmé, précisé sa nationalité. À force de se serrer contre l'ennemi, les provinces se sont trouvées un peuple. » Donc, De Gaulle reprendra ça à satiété. L'histoire a constitué ce que De Gaulle, encore dans son vocabulaire, appelle la race française. L'histoire a constitué la race française par mélange des peuples. J'insiste lourdement pour bien dire qu'on n'a pas affaire à un racialisme biologique. L'histoire a constitué la race française, la nation française, le génos, la gens française, en mélangeant les peuples et en résistant aux invasions extérieures. Or, dans ce jeu, dans cette équivocité, il est remarquable de nommer deux fois la cause de la dégénérescence du peuple. Deux mots viennent pour pointer ce qui cause la dégénérescence du peuple, et on voit comment les glissements peuvent opérer. Un, usurier, qui est un terme social, une dénomination sociale, et deux, mis en équivalence, mis en synonymie, le juif. Alors, via l'annexe qui est édite, le peuple a une petite note que je vous soumets, que je trouve léonine. Le terme de juif est pris dans son sens le plus commun, tel que Toussnel le définit dans son pamphlet « Les Juifs, rois de l'époque », lu par Michelet le 15 août 1845. Le journal de Michelet permet... Deux points, suit une phrase donc du dit Toussnel. Je préviens le lecteur que ce mot est généralement pris ici dans son acception populaire. Deux points, juif, virgule, banquier, virgule, marchand d'espèces. Je me suis posé la question, et alors je dois à la vérité de dire que, et ça me fait une occasion de remerciement supplémentaire, j'avais accepté la note de Via l'annexe, je suis en train de rédiger quelque chose là-dessus, et j'ai reproduit en disant, bon, ne vous excitez pas. Et puis en préparant, du biais de la question qui m'était posée par vous, quid du nationalisme, pourquoi parler de Michelet, tout d'un coup ça m'a sauté à la figure, alors que ça ne m'avait pas sauté à la figure, j'avais eu tendance à arrondir effectivement les angles en disant on est dans une figure d'une sorte d'antisémitisme archaïque, banal, etc. Et puis, en prenant sous le biais de la question de la nation et du nationalisme, le problème devient quel est le sens du mot juif dans cette affaire. Et dans ce système de signification où la nation s'ancre sur la fabrication du territoire via la fabrication de la terre, c'est quoi ? Que veut dire juif ? Que veut dire juif ? Ça veut dire, je crois, incontestablement, celui qui est urbain, c'est l'homme de la ville. Ce n'est pas un peuple étranger, et c'est là où je retrouve mon inclusion exclusive. Ce n'est pas un peuple étranger. Il est de la population française, d'une certaine façon, du peuple français. Mais il est donc quelque chose comme un extérieur à l'intérieur. D'abord, il est en ville. Et la ville est un lieu de délitement du peuple. Il faudrait reprendre tout ce que dit ensuite Michelet sur la ville et sur l'usine. Et puis il est usurier. C'est l'homme de l'argent. L'argent qui est une abstraction, un équivalent universel, abstrait, sans racine, qui circule, qui est voué à la circulation. Tout comme le pasteur est voué à la circulation, alors que le vrai fondateur, chez Michelet, c'est le cultivateur, celui qui laboure, celui qui travaille la terre. Le juif est donc le nom d'un peuple sans patrie, ou d'un non-peuple sans patrie, de toutes les nations, donc d'aucune. C'est donc, je crois, une présence fantomatique de cette inclusion au titre de l'exclu, de cette extériorité interne donnée à celui qui défait le lien constitutif d'un peuple en dénouant son attache à la terre, en substituant la terreur, donc la haine, à l'amour de la terre. Et toutes les figures de servitude seront, chez Michelet, des figures de haine. Je crois que nous avons dans ce mode opératoire de la catégorie de peuple l'un des ressorts de l'imaginaire collectif de la position d'une nation. une multitude au sein de laquelle se forment des affects communs d'amour et de haine, nourrissant l'imaginaire de former comme un seul corps, et non pas un seul corps. Je rends à nouveau hommage au Spinoza, former comme un seul esprit, et non pas former un seul esprit, qui a donc aussi tendance à se défaire. Imaginaire mobilisant les sujets contre l'envahisseur, imaginaire aussi de la pureté du corps collectif, de l'immunisation de la communauté contre les risques de sa déliaison, imaginaire déterminé donc à tracer en son sein des différences qui marquent son identité, et imaginaire nourrissant le sentiment de la supériorité de cette nation sur les autres, notamment sur les voisins. C'est ainsi que, très clairement, la France n'est pas donnée comme nation comme les autres, mais comme la nation par excellence, parce qu'elle est seule incarnation d'un principe universel. Michelet s'adressant aux Français, vous êtes la France, vous n'êtes pas une nation seulement, vous êtes un principe, un grand principe politique. J'ai pas pris de montre devant moi, donc je joue.
Je pensais que vous arriveriez à terminer dans 3-5 minutes, parce que sinon on n'aura plus de temps pour la discussion.
D'accord.
Je vois bien que vous avez encore beaucoup.
Un petit peu,
donc,
oui.
Je pense que vous arrivez à finir tout ça dans le temps qu'on avait imparti. Je le regrette, mais.
Oui. alors, je. Ça a toujours la. Je vais toujours difficile de sabrer en parlant. Mais,
oui, oui, oui.
Non, mais chacun dans son rôle. Pas de problème.
Je ne me sens pas dans un confort extraordinaire dans ce rôle-là, mais je l'assure.
Je voudrais déduire deux thèses, un petit peu de ce que j'ai essayé de construire à partir de Michelet. Par peuple, on n'entend pas le simple fait d'une population occupant un territoire, mais le nom de son unité consciente d'elle-même, c'est-à-dire du dépassement des particularités, donc le nom de l'union réelle, c'est-à-dire quelque chose comme un principe universel. D'où la deuxième thèse que je tire de Michelet. Un peuple existe, n'existe que à proportion de l'affirmation de son unité, corrélative de la conscience de ce que son fondement est principe universel. Ce qui, chez Michelet, je le dis au passage, prend le nom de révolution. Français, dit-il, vous êtes devant l'Europe, que vous le vouliez ou non, l'autre nom de la Révolution. Je saute, j'en viens à mes conclusions. Si c'est confus, je
des choses,
voilà, oui, tout à fait, bien sûr. Non, mais bien sûr. Je dirais que l'enjeu de ce détour, l'enjeu de ce passage par Michelet, de ses réflexions sur peuple, le point nodal me semble être autour de la question du mode d'unité. On peut distinguer très schématiquement trois manières de faire unité. Première façon de faire unité en droit politique moderne, la convention, le pacte, l'accord contractuel. L'unité est alors une unité de composition, présupposant que les individus sont conditions et fins de la communauté. L'unité se ramène alors à une forme juridique. Or, c'est en raison du caractère abstrait de cette position que, dans une lignée qui remonte au moins à Herder, Michelet refuse cette solution. Pour lui, elle procède plus de la déliaison du peuple que de sa véritable unité. D'où, parce que la logique de la Convention, c'est la logique de l'intérêt particulier, donc c'est la logique de la concurrence interindividuelle. D'où la thèse d'un peuple principe, fondement, la thèse d'une antériorité logique et ontologique du peuple sur les individus qui le composent. Mais l'intérêt d'une lecture de Michelet, c'est de ne pas suivre la voie des romantiques allemands, de ne pas rester pris dans la logique de position de l'esprit d'un peuple en sa pureté, mais de tenter de réarticuler la position d'un peuple particulier avec le principe universel qui, chez lui, est le principe universel de justice. Peuple, cela dit, la justice. D'où la conséquence, la voix du peuple est rarement dans le peuple, rarement dans la masse. La voix du peuple se fait entendre chez le génie, chez l'enfant, chez le sauvage, chez le barbare. Juste trois lignes. Nous avons, nous autres barbares, un avantage naturel. Si les classes supérieures ont la culture, nous avons bien plus de chaleur vitale. Elles n'ont ni le travail fort, ni l'intensité, l'âpreté, la conscience dans le travail. Le peuple est donc barbare parce que le barbare, c'est le sang chaud qui bouleverse la pesanteur bourgeoise ou aristocratique et confère donc son âme à la nation tout entière. Et suivant que l'on mette l'accent sur le principe de justice ou sur l'affirmation particulière, on a un peuple universaliste ou nationaliste. Et Michelet me semble montrer l'intrication des deux, la distinction de ces deux tendances ne relevant que d'une distinction de raison. Qu'est-ce qui est escamoté dans ce dispositif ? Je crois que ce qui est affirmé, c'est le désir d'unité dont peuple est ici le nom. Et dans l'affirmation du désir d'unité, au fond, quelque chose comme la question démocratique, quelque chose comme le conflit politique se trouve totalement recouvert. D'où ma conclusion en trois points, trois manières d'unifier. Et je l'évoque juste, une hypothèse touchant un troisième mode d'unité ou d'unification possible, l'unité dans le conflit politique, la constitution d'un « nous » qui résulte non pas d'une identité, mais de l'identification du non-identique, d'un « nous » qui puisse affirmer quelque chose comme « nous sommes ce que nous ne sommes pas ». Je reprends ça de Rancière, évidemment, « nous sommes tous des Juifs allemands ». D'un « nous » qui se constitue autour de la question cruciale de la part des sans-parts. Et donc, pour ouvrir, puisque le colloque ouvre sur au-delà de maintenant, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution devant à la fois les processus de dédémocratisation contemporains de la vie politique et les retours de nationalisme ou de xénophobie que de chercher à renouveler, à relancer la délibération démocratique et donc le conflit politique. Merci beaucoup. Merci.
Bien, merci beaucoup Gérard Bras pour votre communication et pour votre effort pour la réduire en dépit des pertes inévitables, je le crains. Je propose que nous prenions un quart d'heure de discussion et que donc nous passions à la communication suivante avec environ 5 minutes de retard. Je pense que c'est tolérable. Voilà, j'ouvre la discussion et je vais donc, c'est-à-dire je vais prendre le micro et vous le transmettre. J'ai déjà quatre mains qui se sont levées, donc ça va aller très vite.
Voilà, ça doit. La conclusion devrait plaire à Hugues Poletier, parce qu'en réalité, c'est un peu ce que dit Lefort sur le fait qu'il faut éviter le peuple 1 et qu'on l'évite à la fois par le conflit, mais aussi par cette figure étrange chez Lefort de la démocratie sauvage, c'est-à-dire qui apparaît et qui réapparaît en des lieux où on ne l'attendait pas. Mais la question, c'était plutôt sur le tout début de votre intervention, sur le tableau que vous avez projeté. Ce qui m'a frappé, c'est que la colonne de gauche, donc la colonne de l'autre du peuple, enfin son autre du peuple, l'inclusion exclusive, reprend, à mon sens, toutes les figures qu'on assimile aujourd'hui dans le discours courant et dans le discours de la science politique aussi, au populisme précisément. C'est-à-dire la multitude à la place du souverain, la populace à la place de la plèbe, le sauvage à la place de l'ethnos. Peut-être moins la question de l'hérésie, ça c'est un peu différent, mais en tout cas les trois premiers sont véritablement constitutifs du discours du populisme, c'est-à-dire comme autre, c'est le mauvais peuple, le populisme. Okay. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
Oui, je crois que dans la populologie, le populisme, c'est... la manière d'être. J'ai entendu un jour à la télévision Duhamel dire ça à propos de... Il y avait une image de Beperi qui passait et il dit mais ça c'est pas le peuple. Il y avait, je sais pas, 100 000 personnes et ça c'est pas le peuple, c'est la foule. C'est pas le peuple, c'est la foule. Et effectivement, ce dispositif m'est venu d'abord à partir de la lecture de Hobbes où le peuple se constitue par le représentant. C'est le représentant qui fait, un, le peuple. Et qu'est-ce que fait le représentant? Il transforme la multitude en peuple. Et la multitude se révoltant, c'est pas le peuple. On connaît les phrases du Dekiwe où, effectivement, le peuple ne peut pas se révolter. Et en réalité, le peuple, c'est le roi. Le peuple ne peut pas se révolter. Donc, dès lors qu'il y a révolte, dès lors qu'il y a subversion, c'est autre chose que du peuple. C'est du non-politique. Il n'y a pas de révolte politique. C'est anti-politique. C'est pas... Et on retrouve effectivement tous ces thèmes. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de travailler dans l'histoire, en particulier dans l'histoire moderne, une sorte de constance d'un tel fonctionnement. On insiste beaucoup sur l'opposition entre un peuple et l'autre, et un autre. Et ce qui me paraît important, c'est le fonctionnement souterrain, qui est celui de l'altérité déniée, de l'opposition déniée, qui vient toujours dans les marges, qui vient toujours comme scorie. Tout ce qu'on dit, tout ce que la bien-pensance dit sur le populisme, et même l'usage du populisme qui n'est jamais défini. C'est frappant, on peut lire des bouquins, j'en ai eu un certain nombre de populologie, que ce soit Hermé, Taguieff éventuellement, c'est-à-dire qu'on accumule les lectures et on a soit une définition à géométrie variable, c'est-à-dire que de toute façon, populisme, c'est le méchant, donc suivant le méchant qu'on vise, la définition de populisme va, les caractères du populisme vont varier, et on n'éprouve jamais le besoin de définir rigoureusement le populisme. Et donc, c'est la mauvaise manière d'être peuple. C'est la mauvaise manière d'être peuple. bien sûr. C'est dans le contemporain la mauvaise manière d'être peuple.
Oui, avant même que vous... que vous citiez Michelet, que vous prononciez le mot juif, j'avais écrit sur mon carnet Pétain. Et donc, on ne peut pas, en vous entendant, ne pas penser au fameux « la terre ne ment pas ». Et en vous entendant, je me dis que c'est que finalement, dans Michelet, il y a une nouvelle explication de l'affaire Dreyfus. Dreyfus constitue, à tout point de vue, un scandale, puisque c'est un juif soldat. Donc, un juif ne peut pas être soldat. Et c'est ce qu'on disait aussi d'ailleurs, quand les juifs ne peuvent pas se battre. Et je ne pensais pas retrouver ça chez Michelet. Et ça m'étonne beaucoup. Enfin, ça me... Et puis on retrouve effectivement, et si on continue, on va chez Barrès. Et puis quand Barrès dit « Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race », c'est donc vous pensez que c'est dans le sens de race qu'emploie Michelet. Et puis ma deuxième petite question, ce serait... qui n'a rien à voir, ce serait, est-ce que finalement Hugo, dans Les Misérables, est-ce que Hugo constitue un contre-Michelet dans Les Misérables avec Gavroche, et avec le... Et puis il y a le mauvais pauvre aussi, évidemment.
Oui.
Oui. Donc voilà mes deux remarques.
Oui. Je pense quand même que chez Barrès, c'est une race biologisée. Je pense que chez Barrès, c'est une race biologisée. Je suis pas spécialiste de Barrès, mais il me semble quand même que l'atmosphère et le vocabulaire, c'est une race biologisée. Ça, je crois à peu près certainement. Enfin, c'est-à-dire que, alors biologisée et enfin ethnoculturelle, enfin, genos ethnos, c'est-à-dire que c'est espèce de mélange de la première moitié du 20e, fin 19e, où le support biologique vient base de la culture, enfin, c'est-à-dire que c'est cette espèce de bricolage épouvantable qui vient de Gobineau, qui vient, enfin, donc là je prends. Alors Michelet, c'est vraiment compliqué, quoi, c'est-à-dire que, et plus je plonge, plus ça prend de l'ampleur, donc je pense que je vais y consacrer dans les années à venir. On m'a demandé un bouquin Michelet philosophe, donc ça m'intéresse de plonger un peu plus, quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé, ce que j'ai essayé de montrer, c'est l'intrication de fil qui fait qu'il peut être tiré quand même dans des directions assez différentes. Je pense que c'est, vous évoquez Pétain, je pense que c'est une référence forte pour De Gaulle. Ça me paraît évident. Enfin, je n'ai pas vu de citation explicite dans De Gaulle. J'ai un peu lu, je n'ai pas vu de citation explicite. J'ai pas tout lu, mais dans les mémoires, j'ai pas vu de référence explicite à Michelet, c'est Malraux qui... oui, Malraux le fait. D'accord. Donc j'ai pas la... Dans les chaînes qu'on a bas, je l'ai pas repéré, alors. D'accord, peut-être dans l'identité, mais parce que j'ai pas lu, il faut que... Parce que ça me paraît évident. Donc, mais c'est... Ce que j'ai voulu montrer, c'est que bon, il faut pas caricaturer le nationalisme, mais d'essayer de voir. Bon, je suis un peu comme Balibar, je cherche les apories, quoi. C'est-à-dire que je cherche pas les solutions claires, je cherche plutôt les choses où ça se complique, et de voir comment les fils se mêlent l'un dans l'autre. Alors, est-ce que Michelet fait un anti-Hugo? Là, Hugo, un anti-Michelet. Oui, c'est clair que ce que j'ai dit, enfin, la référence au gamin de Paris était explicite chez Michelet, donc Hugo la reprendrait contre. J'ai pas les moyens de répondre sérieusement, mais j'ai deux bons amis hugueliens patentés à qui je vais poser la question. Oui. Oui.
Oui, bonjour. Je me demandais, bonjour, à propos de la race, quand vous avez parlé qu'il y a les différentes invasions qui viennent et ensuite ils deviennent paysans, à partir de quel moment on peut considérer qu'ils sont comme unifiés, que les nouveaux qui viendraient de vagues successives ne sont plus directement inclus et deviennent directement des autres? Et puis l'autre question que je me demandais à propos des questions religieuses, vous parlez de croyants, incroyants, comment sont considérés les protestants directement dans cette variable, un peu comme des juifs, un peu des autres, ou ils ne rentrent pas dans ces catégories?
Je répondrai du point de l'objet qui était le mien, c'était Anne Michelet. À la première question, la réponse est à peu près donnée dans le petit extrait de l'histoire de France que j'ai cité. L'Angleterre a rendu d'éminents services à la France, c'est-à-dire que ce qui unifie, ce sont les guerres. Ce qui, pour Michelet, ce qui unifie les différents peuples ou les différentes populations, ce sont les guerres. Toutes. Non, ce n'est pas terminé. Alors, je dirais, ça fait partie des... J'en profite pour caser une demi-page coupée. Ce qui fait véritablement peuple, le peuple, c'est la Révolution. C'est ce qui unifie les populations en peuple, c'est-à-dire qui vont leur faire prendre conscience de leur unité, ce sont les guerres, en particulier la guerre de Cent Ans, l'ennemi héréditaire qu'est l'Angleterre. Mais, au sens politique du terme, ce qui fait que le peuple est peuple, c'est la Révolution. Le peuple n'est véritablement peuple. On pourrait presque dire que dans l'histoire de France, il y a deux jours où le peuple est peuple. C'est une sorte d'épiphanie du peuple en deux jours. Mai 89, l'ouverture des États généraux, où on voit tout le monde. Et là, il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que la monarchie a divisé en imposant des costumes différents et donc les divisions du peuple sont visibles. Il y a une force qui est à l'œuvre. Alors qu'est-ce qui va faire peuple le peuple? C'est la fête de la fédération 1790. Ce sont les fédérations qui vont véritablement unifier. Et là, il a cette formule, le peuple, pour la première fois, le peuple se vit lui-même. Se vit du verbe voir. Barthes a un beau commentaire de cette idée chez Michelet. Il y a, dit Barthes, deux révolutions. Une révolution qui est un principe éternel et une révolution incarnée, celle de 89. En sorte que c'est la révolution historique qui dévoile rétroactivement son prologue infini. La révolution historique est le drame souverain qui explique toute l'histoire antérieure. Elle éclate comme l'incarnatus est de la justice. Le livre de Barthes est remarquable, on le trouve difficilement. Michelet par lui-même, c'est un livre absolument remarquable. Et c'est ça, le peuple a toujours existé comme principe infini. Mais c'est la Révolution qui le fait exister, qui l'incarne réellement. Et cette incarnation, j'ai commencé par là, est bien fragile, puisqu'en 1846, le peuple est défait. Il va se reconstituer en février 48, il va être défait par le Second Empire à nouveau. Donc il y a une précarité. C'est là où Michelet n'est pas un dogmatique du nationalisme et n'est pas récupérable comme proto-fasciste, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une précarité existentielle, il y a une éternité du principe peuple mise en synonymie de justice, donc principe universel, c'est pas un Volksgeist qui est en œuvre, et une précarité de son principe existentiel. Le peuple, historiquement, existe de façon précaire, mais son principe éternel, De Gaulle va dire la même chose en juin 40. Il dit exact. Il y a une poignée de résistants français à récolter l'âme de la France, à recueillir l'âme de la France. C'est quoi le peuple français? C'est une poignée de.
Dernière question. Oui, tout au cours de votre exposé sur Michelet particulièrement, qui est une vision du 19e siècle du peuple, moi je me suis tout le long demandé, mais qu'est-ce que le peuple aujourd'hui ? Michelet dit c'est l'homme de la terre, mais aujourd'hui on dit plus c'est le paysan. Aujourd'hui on dit plus le paysan, on dit l'agriculteur, il est souvent locataire de sa terre, qui ne lui appartient plus. Et, ou alors c'est le peuple qui défend sa terre. Mais aujourd'hui, pour moi, ce terme de cette vision de Michelet du 19e, ne fait plus écho avec notre aujourd'hui au 21e siècle.
Et, ouais. Oui. Vous m'inviterez pour un autre colloque. Mais non. J'ai donné un coup de pied quelque part et c'est là où ça tourne. Voilà, c'est bon. J'ai été interpellé ces derniers temps par cette question du chez nous, qui me paraît être l'une des expressions triviales, justement, d'une xénophobie nationaliste, d'une xénophobie de base simple. Bon. Et à plusieurs reprises, je me suis heurté à ça, y compris venant de gens anciens militants communistes, fils d'immigrés italiens, fils de résistants, de responsables du maquis en Savoie. Et le gars me dit, ma mère m'a jamais appris l'italien, un peu ce que Sarkozy a sorti, j'ai jamais appris le hongrois, et je peux dire mes ancêtres les Gaulois, etc. C'est quoi c'est, il me dit, on se sent plus chez nous. On se sent plus chez nous, habitant une banlieue parisienne peuplée depuis 50 ans par 35% d'immigrés algériens. On se sent plus chez nous. C'est quoi ce chez nous ? Je ne dis pas que j'ai la réponse à la question, mais il me semble, dans le mythe du peuple, c'est un mythe que Michelet élabore, dans le mythe du peuple, dans ce qu'on pourrait appeler, Alain Pessin parle de populisme au sens russe du terme à propos de Michelet, ça me convient bien. Dans ce mythe du peuple, on peut trouver un élément, donc je ne réponds pas à la question, mais on peut trouver un élément, celui du chez-nous, qui est l'imaginaire du paysage, du pays, du paysan mythique, et donc de l'enracinement. Il y a un autre élément important. Je l'évoque, je l'ai suggéré ce matin à travers une question. Il y a un autre élément qui me semble important, c'est la question des droits sociaux. Ne plus être chez nous, c'est les autres qui viennent nous piquer les cotisations de sécurité sociale qu'on a payées, ils viennent sans avoir... Donc, nous piquer les droits sociaux. C'est-à-dire que c'est autour de ça que ça tourne aussi. Mais il me semble qu'il y a chez Michelet... un élément qui est à la fondation de cet imaginaire d'un peuple transhistorique qui est installé chez lui et qui veut rester, non pas pur pour être pur, mais qui veut rester chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire être chez soi ? C'est un petit peu le... Alors après, bien sûr, je sais bien que je n'ai pas répondu complètement à votre question, qui est une question énorme, enfin, bien sûr.
On n'aura pas la réponse à cette question. On en a juste des linéaments, des prémices, mais je crois que c'est la vie. On n'aura jamais que les prémices et les linéaments des réponses.